Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Le film d'animation minuscule de Les Mandibules du bout du monde est une des réussites de la semaine au cinéma. On passe en revue les nouveautés dans un instant avec Stéphane Boudsocq. 3 ans après avoir claqué la porte de la direction du ballet de l'Opéra de Paris, le chorégraphe Benjamin Millepied est de retour en France. Sa compagnie est sur scène à Paris cette semaine. À suivre ses confidences avec Steven Bellery. Nous n'oublierons pas nos express du jour préparés par Aymeric Partenau. Et puis on ira se promener sur les chemins du Dauphiné, une destination à l'honneur sur France 3 à 21h dans le magazine Des Racines et des Ailes. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morilly-Boss.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Notre séance du mercredi pour commencer avec vous, Stéphane Boudsocq. Bonjour.
Bonjour à tous.
Avant de passer en revue quelques-unes des 20 sorties du jour, excusez du peu, jetons un œil sur les chiffres de notre box-office hebdomadaire.
Comme d'habitude avec nos amis du site cbo.fr et c'est La Mule, dernier film RTL de Clint Eastwood qui s'installe largement en tête, de Mule évidemment. Déjà près de 6...
Bravo.
Ben oui, je l'ai fait. Déjà près de 650 000 entrées. Très beau succès. Belle sortie aussi pour Green Book. On est autour des 270 000. Yao avec Omar Sy démarre plus doucement, juste en dessous des 200 000 spectateurs. Côté continuation, l'excellent maintien des Invisibles de Louis-Julien Petit qui passe la barre des 900 000 spectateurs.
Nous en venons donc aux nouveautés à l'affiche, Stéphane, en rappelant d'abord la sortie très attendue de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?
Ouais, 5 ans après le carton du premier volet, c'est 12,5 millions d'entrées quasiment. Philippe de Chauvron a de nouveau convoqué la famille Verneuil, les parents, les filles, les gendres et les beaux-parents pour une histoire qui gratouille toujours là où ça nous chatouille, sur le terrain du politiquement incorrect et de ses petits défauts qui font de nous, Français, un peuple si attachant. On rit toujours, c'est aussi plus tendre, donc pas mal du tout au final, grâce surtout au couple Verneuil, j'ai nommé Chantal Lobby et Christian Clavier, qui vraiment sont épatants.
Voilà pour ce morceau de choix. Parmi les autres films à voir, Stéphane, vous avez un gros coup de cœur pour Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde.
Remarquable film d'animation, imaginé, tourné, fabriqué en France. Là aussi, c'est une suite, rappelez-vous, il y a 6 ans, Minuscule, la vallée des fourmis perdues avait attiré 1,5 million de spectateurs, surfant sur le succès d'une série télé racontant le quotidien d'insectes, fourmis, coccinelles, araignées et autres chenilles. Cette fois, direction la Guadeloupe, où une petite coccinelle va se retrouver après être tombée dans un carton en partance pour les Antilles. Visuellement foisonnant, malin, chaque scène, drôle, émouvant, Minuscule 2 est une réussite totale, qui alterne images de synthèse, maquettes et vrais décors, sans rien avoir à envier aux grands studios américains d'animation. Hélène Giraud et Thomas Zabo, les deux réalisateurs, se payent en plus le luxe de mêler plusieurs genres, l'action, la romance et le fantastique.
Dès le départ, dans notre scénario, on avait envie de partir à la fois dans la comédie, dans l'aventure, dans le romantisme et beaucoup plus dans l'émotion. Mais on voulait aussi accélérer le rythme, on voulait avoir plus de décors, traiter un peu plus les personnages d'une manière plus élaborée que sur le premier film. On voulait vraiment que les personnages changent pendant le cursus de l'histoire.
Vers la fin, on glisse vers le fantastique. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de toucher du doigt. Quand on rentre dans l'arbre à chenilles, quelque part, on rentre dans une sorte de monde un peu parallèle. On emmène nos petits personnages dans des frontières différentes. Il y avait vraiment beaucoup de choses comme ça qu'on voulait explorer dans ce 2. Pas seulement la Guadeloupe, c'était aussi artistiquement, on voulait explorer des choses.
Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde. Allez voir ça au cinéma. Notez que l'épisode 3 est déjà en préparation. On a le titre, ça s'appellera Les fourmis contre-attaque.
Évidemment. Absolument. Alors, en attendant cette offensive, parlons des Oscars qui sont programmés donc le 24 février prochain, sorti aujourd'hui d'un candidat sérieux à la précieuse statuette.
Si Bill Street pouvait parler de Barry Jenkins, oscarisé il y a 2 ans pour le formidable Moonlight. Cette fois, il adapte un roman de James Baldwin qui raconte l'histoire d'amour contrarié entre Tish et Fonny. On est dans le Harlem des années 70. Le couple va devenir parent, mais le jeune homme est accusé à tort du viol d'une portoricaine. Il est condamné à de très longues années de prison. Sa femme ne perdra jamais espoir pour faire éclater la vérité. C'est tout simple, c'est beau, solaire, bouleversant, rageant. Le film dénonce la violence d'une société américaine blanche qui n'a jamais réussi à considérer ses minorités. Barry Jenkins parvient à faire coexister la dureté des faits et la passion solaire de ses héros.
Pour moi, c'est les deux, et c'est pour ça que je suis tombé amoureux du roman.
La manière dont tout est décrit reflète les deux voies de James Baldwin. L'une obsédée par la romance, la sensualité, l'autre focalisée sur l'injustice dont vous parlez. La violence raciale et sociale, d'abord, mais pas exclusivement dirigée contre les Noirs. Donc lire le livre, c'est une chose, regarder le film en est une autre. C'est comme la chimie. Certains éléments sont plus denses, donc vous devez en mettre un peu moins pour obtenir la bonne formule. Et il fallait que ça déborde de romantisme, mais que ce soit aussi le reflet fidèle d'un militantisme opposé à un système politique violent. C'est ainsi que le film a atteint son parfait équilibre.
Ne ratez pas si Bill Street pouvait parler, nommé 3 fois cette année aux Oscars.
Autre nouveauté à l'affiche, Stéphane, l'intervention de Fred Grivois.
Oui, film qui revient sur la prise d'otage du 3 février 76 à Djibouti, alors territoire français. Prise d'otage d'un bus scolaire par des militants indépendantistes tout près de la frontière somalienne. 31 enfants, le conducteur et une jeune assistante sociale seront retenus à bord de longues heures avant l'arrivée d'un commando du GIGN, commandé par le lieutenant Proutot. Commando qui passe à l'attaque le 4 février après-midi. L'histoire est connue, mais j'arrête là le récit pour ceux qui iront voir le film. Extrait, le patron du commando GIGN annonce à l'assistante sociale qu'il va passer à l'action.
À part les fusils d'assaut, vous avez vu d'autres armes ?
Oui, le chef a un pistolet.
Des explosifs ?
Des grenades, une ou deux par homme. Il commence surtout à être très fatigué. Ils sont en manque de cadre et très agressifs. Ils attendent le coucher de soleil pour évacuer les enfants vers la Somalie. Il faut faire vite. Les enfants vont pas tenir longtemps.
On est ici pour vous sortir de là. Vous allez sortir avec tous les enfants en rang 2 par 2.
Comment ?
On a 2 sections de la Légion en couverture si ça tourne mal. Ça devrait suffire. Par contre, il va falloir que les enfants se tiennent tranquilles. On peut pas prendre le risque d'en avoir un qui passe dans la ligne de tir.
Mais ils ont entre 6 et 12 ans, capitaine. Il fait chaud et ils sont retenus par des dingues depuis plus de 24 heures. Je ne pourrais pas faire de miracle. À part en les droguant, peut-être.
Ça doit pouvoir s'arranger.
Alban Lenoir, Olga Kurylenko, Vincent Pérez ou encore Josiane Balasko à l'affiche de l'intervention, donc au cinéma, à voir. J'en dirai pas autant de À cause des filles de Pascal Thomas, énième film misogyne et ma foi assez ringard du réalisateur jadis inspiré. Moi j'avais adoré Celle qu'on n'a pas eue ou Les maris, les femmes, les amants, c'était il y a longtemps. Cette fois, on a un marivaudage assez daté qui montre comment les participants d'un mariage vont tenter de consoler la mariée de la fuite de son mari lors de la cérémonie en lui faisant part de leurs expériences. José Garcia, Pierre Richard, Audrey Fleureau, Frédéric Beigbeder, Irène Jacob ou Rossi de Palma, beau casting, bah ils font ce qu'ils peuvent, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Dans ce genre-là, je préfère de loin la folie bordélique et jouissive des Estivants de Valeria Bruni Tedeschi, dans lequel elle-même, mais aussi Pierre Arditi, Yolande Moreau, Valeria Golino, Noémie Lvovsky ou Laurent Stocker, là aussi il y a une belle affiche, joue le jeu du règlement de compte au cœur d'une belle maison de vacances sur fond de secrets, de rancœur, de peur, de désir. On l'a déjà vu plein de fois, d'accord, mais cette comédie à l'italienne, elle, a du cœur.
Merci Stéphane Boutsock. Dans un instant, nos express avec Aymeric. Il sera aussi question de cinéma et du dernier billet.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30. Les express LVT.
Préparé par Aymeric Partonneau de la rédaction d'RTL.fr. Bonjour Aymeric.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et nous commençons donc avec le nouveau film de Bertrand Blier qui réunit 2 immenses acteurs du cinéma français. Nous avions visité le tournage et la bande-annonce vient d'être dévoilée.
Oui, on ne les avait pas vus ensemble depuis Astérix et Obélix en 2002. C'est Christian Clavier et Gérard Depardieu qui se retrouvent dans Convoi exceptionnel, extrait.
Je m'appelle Foster.
Moi c'est tout peu.
Est-ce que vous ressentez de la sympathie pour moi ?
Aucune.
C'est dommage.
On aurait pu devenir copains.
On a rendez-vous.
Mais pourquoi on a rendez-vous avec lui ?
C'est pour le tuer.
Mais pourquoi il va falloir ?
Mais parce que c'est écrit dans le scénario !
Voilà, et si Christian Clavier s'énerve à cause du scénario, c'est parce que le film joue sur les codes du cinéma. Les personnages se croisent avec leurs pages de script dans les mains.
Séquence 17. Dans 5 minutes, on boit une bière.
Je ne vous sers pas 2 bières.
Et pourquoi ?
Les 2 connards arrivent. Le patron leur dit, je ne vous sers pas 2 bières.
Vous vous foutez de notre gueule.
Voilà, un petit peu. Alors, on ne sait pas si c'est la vraie vie, une séance de répétition ou un tournage mis en abîme. Convoi exceptionnel sera un objet cinématographique original et déstabilisant. Il y aura Audrey Dana, Alex Lutz, Alexandra Lamy ou encore Guy Marchand qui seront aussi de la partie. Rendez-vous dans les salles le 13 mars pour découvrir ce film RTL.
Ouais, c'est merveilleux. J'ai hâte. Hein. Ouais. Une pièce de théâtre propose de ressusciter Marlène Dietrich.
Oui, après Miami, Venise et Londres, Marlène Dietrich is back. C'est le nom de la pièce. places pour 12 représentations à Paris entre le 31 janvier et le 17 février au théâtre de la Tour Eiffel. Isabelle Morini-Bosque a rencontré la comédienne Cyrielle Clair qui incarne la Vénus blonde.
Je connaissais très peu Marlène. Je connaissais que l'image glamour, mais c'est pas celle qui me touchait le plus, honnêtement, parce que je la trouvais très fabriquée. Mais quand on vous fait une proposition pareille, ça ne se refuse pas. Donc j'ai dit oui tout de suite et après je me suis dit comment vais-je faire ? Je me suis attelée à la tâche et j'ai découvert une femme absolument fascinante. L'épisode où on évoque les hommes de la vie de Marlène, extrêmement nombreux, j'ai eu l'idée des grandes poupées en chiffon. C'était l'idée que Marlène jouait avec tous ces hommes. Et alors elle disait une chose très amusante, les hommes ils sont tous différents, pourquoi choisir, n'est-ce pas ? L'investissement il est chaque soir aussi, parce que toutes ces périodes impliquent que moi j'ai 12 changements de costume extrêmement rapides, plus la transformation, mettre les fossiles, mettre la perruque, rentrer mon ventre, sortir la poitrine... Et devenir Marlène. Ah oui, et je vous ai pas dit le meilleur. Sur scène, je chante dans les trois langues, mais surtout, je joue en anglais et en français. Outside the barracks, by the corner
light, I'll always stand. Marlène Dietrich is back commence donc dès demain. Ce sera au théâtre de la Tour Eiffel
c'est
à Paris.
Génial.
Que donne le palmarès hebdomadaire des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express ?
Alors, Sérotonine, bien sûr, de Michel Houellebecq domine toujours ce début d'année en librairie. Il devrait flirter d'ici la fin de la semaine avec les 300 000 exemplaires vendus. Sérotonine est également numéro 1 en Allemagne, en Italie et en Espagne. Incroyable. Deuxième meilleure vente du moment, c'est La guerre des pauvres du lauréat Goncourt 2017, Éric Vuillard. Quant au Goncourt 2018, Nicolas Mathieu, il complète ce podium avec Leurs enfants après eux. Et du côté des essais et documents, la première place revient à Vital, le dernier ouvrage du docteur Frédéric Saldmann.
Le palmarès complet est à retrouver dans les colonnes de l'Express. Alors ce mercredi est aussi la date anniversaire du dernier concert jamais donné par les Beatles. C'était le 30 janvier 1969.
Oui, il s'agissait du Rooftop Concert, oui. Donné donc, comme son nom l'indique, en haut d'un immeuble de Londres. 42 minutes de concert surprise avant que la police ne vienne les déloger. She did. Voilà, à l'occasion des 50 ans de ce concert, un très proche des Beatles, Barry Miles, va lancer un appel mondial aux fans afin qu'ils partagent leurs photos, leurs vidéos, leurs archives personnelles des Beatles. Ces petits trésors personnels finiront dans un livre et dans une exposition dont les bénéfices seront reversés à une association caritative.
Merci beaucoup, Aymeric. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors, nos audiences télévisées de la veille avec vous, Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, écoutez, curieusement, soit paix au public sur TF1, vous savez, avec votre héros que vous n'aimez pas beaucoup, là, 5 100 000 téléspectateurs et 22% du public sur la Une, devant Au-delà des apparences, qui a bien terminé. 3 300 000 personnes étaient sur la 3, 14% du public. Et Patron Incognito conserve à la 3e place tous ses fidèles. Côté TNT, c'est Comme un chef, le film, qui est en tête. 770 000 téléspectateurs. C'est
alors, vite. Ce soir, vous signalez, et bien entendu, toujours Esprit criminel sur TF1.
Oui, alors cette fiction américaine montre en travail de profileur remplace avec succès New York Unité Spéciale, déprogrammée faute d'audience à 21h. Oui, pour Esprit criminel, ça se profile bien.
C'est en phase de Philharmonia sur la 2, un thriller se déroulant dans le milieu de la musique classique.
Oui, alors c'est très amusant de constater que ce sont les spécialistes de la musique classique qui aiment le moins ce feuilleton apprécié par le grand public qui, lui, n'a pas de chapelle. Alors si vous avez regardé les deux premiers épisodes, sachez-le, le plus épuisant est bientôt derrière vous. Ah. Est en effet pénible, et encore un peu pénible ce moment où l'héroïne, une chef d'orchestre, croit qu'elle va mourir folle comme sa mère. L'intrigue va de plus en plus se concentrer sur la musique, bien sûr, et l'intrigue policière avec un tueur en série à la clé. Clé de sol, bien sûr. Oui. Pour l'instant, le patron du Philharmonia est obligé de remercier la chef qu'il déteste et pour avoir su convaincre un financier et son ex-amant à elle de payer les réparations dues à un énorme dégât des eaux.
Arriver en retard et partir sans saluer personne, question relations publiques, on a fait mieux.
Eh oh. On peut dire qu'elle a réussi sa mission quand même. Hein.
Vous voulez bien dire, aux musiciens nous attendent dans le foyer. On va aller les remercier, non, pour leurs efforts.
Tu pourrais peut-être relâcher un peu la pression. Hein. C'est aussi grâce à elle, tout ça.
T'as raison. Barizé défend sa vision musicale. Elle est butée, égocentrique, toutes les qualités d'un excellent chef.
Elle est arrivée sans piston, et des pistons dans un orchestre, il y en a. Alors ce feuilleton à suspense mérite une bonne note, en plus de toutes celles qu'on y entend de notes. Moi, franchement, j'aime beaucoup.
Bon, si on préfère les documentaires, il y a quelque chose ?
Eh bien, moi, j'ai adoré Des racines et des ailes sur la 3, un magazine qu'on n'oublie pas d'aimer, mais qu'on oublie désormais souvent de regarder. Or, l'émission créée il y a 22 ans, et ce soir, absolument formidable. Elle nous entraîne dans le Dauphiné.
J'adore.
Une région que j'adore. C'est un régal pour les images et les infos, pour le voir et le savoir. Ainsi, moi, j'ignorais tout des chevaux de Barakan, race sauvée de l'extinction par un éleveur que l'on retrouve sur le plateau du Vercors.
C'est des chevaux du Vercors. Cheval du Vercors de Barakan, c'est une race ancienne. Des chevaux qui sont plutôt trapus, râblés. C'est ce qu'on appelait à l'époque des chevaux à deux fins, de sel et de traction. On va sortir du bois parce qu'on exploite sa forêt. On va à la messe en calèche. On passe d'une montagne à une autre et on va vendre des objets fabriqués durant les longs hivers. Voilà, c'était ça, ce cheval historique. À la fois, on est les héritiers de quelque chose et en même temps, on est des pionniers. Aujourd'hui, il faut se réapproprier son identité de territoire. Et puis, ces petits poulinous, il ne faut pas hésiter à leur rappeler que c'est d'ici qu'ils viennent, des alpages, du Vercors, de Fondure, les Dambelles.
Gros plan aussi sur ce lac de Paladru où figurent les vestiges d'un village englouti et où l'on voit des maisons très curieusement belles pour ce lac modeste.
On n'est pas très très loin de Lyon, donc les soyeux lyonnais sont déplacés dans nos campagnes. Ils ont décidé de se faire construire ce qu'on appellerait aujourd'hui des résidences secondaires. Et il fallait quand même qu'ils montrent leur réussite. C'est pour ça que les maisons des soyeux, elles ont toute une tour. Ça permet de se positionner sur un territoire et socialement.
Et bien sûr, qui dit Dauphiné dit montagne, cham chaude, la grave, dernier domaine naturel préservé du béton. On rencontre aussi des personnalités attachantes comme ce gardien de refuge qui, quand il arrive pour la saison avec sa femme, doit d'abord trouver et le toit et la cheminée avec le même appareil que celui qu'on utilise pour retrouver les disparus d'une avalanche.
Là, on est bientôt sur le toit. On va essayer de trouver la cheminée pour faire un peu de feu. Parce que dans le refuge, il fait zéro. Mais il faut la trouver. Là, il y a 2,10 m juste sur le toit. Après, c'est bien qu'on ait de la neige sur le toit. Parce qu'en fait, cette neige, on va la faire fondre. Et c'est ça qui va nous faire nos réserves d'eau pour le ménage, pour un petit peu la cuisine. Non, je devrais être pas si loin. Mais... Je sais pas si je vais y arriver, non.
Une heure et demie plus tard.
Ah, je trouve rien, là. Peut-être qu'on nous l'a piqué, la cheminée.
Voilà. Et on n'oublie pas, évidemment, le monastère de la Grande Chartreuse. 5 hectares de toiture, 20 000 mètres carrés. Et une vingtaine de religieux fabriquant la célèbre liqueur comprenant 130 plantes. Le secret de la composition est bien gardé. La recette ancestrale, mais les méthodes modernisées, comme explique le frère Jean-Jacques. Ah.
La liqueur chartreuse, ça avait une image vieillotte, c'était les vieux qui buvaient ça. Donc il a fallu rénover toute la liqueur, toute l'image de marque. Donc ils ont commencé à travailler justement avec les bars et toutes ces choses-là. Ça porte ses fruits maintenant. C'est pas quelque chose de purement industriel, point final, qui est vendu et pour être bu. C'est fait par des moines qui, eux, n'en boivent pas déjà. Et qui, comment dire, est-ce que ça fait quelque part une âme, voilà, quelque chose comme ça, auquel apparemment certaines personnes se raccrochent.
Ah ben c'est pour ça qu'ils l'ont jamais goûté.
Non, voilà, c'est ça. Les alambics sont merveilleusement beaux. C'est de devenir un cocktail très branché dans le Dauphiné et dans les deux Savoies, comme on dit.
Il y a aussi le Green Show qu'on boit sur les pistes. C'est la chartreuse dans du chocolat chaud, c'est abominable.
Absolument, je suis d'accord. Et il y a 1,5 million de bouteilles envoyées dans le monde. Et puis le voyage se termine dans les hauts lieux de résistance du Vercors, avec l'image très émouvante depuis un endroit qu'on appelle le Belvédère, du hameau à un hameau qui a été entièrement détruit, celui du hameau de Valchevrière.
Après les combats par représailles, les troupes vont descendre dans le village et vont l'incendier. Exception faite de la chapelle. Et du coup, c'est aujourd'hui le seul village du Vercors que l'on peut observer en l'état de ruine, parce qu'après-guerre, personne n'est revenu s'installer ici.
Bon, moi, j'adore cette région. J'ai pas de mérite, j'y ai vécu longtemps. Seul bémol, c'est parfois une réalité, hélas, idéalisée. Par exemple, le lac de Paladru, c'est un lac qui est menacé par les réchauffements climatiques, par l'industrialisation, et dont le niveau baisse parfois dangereusement. Mais moi, j'aime bien qu'on me rassure, si seulement ça pouvait être vrai.
Bien sûr, les racines.
Voilà. Donc, c'est une merveilleuse émission ce soir sur la 3.
Sur la troisième chaîne. Dans un instant, une rencontre formidable avec Benjamin Millepied. Elle est signée Steven Bellery.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Une rencontre à présent avec le chorégraphe Benjamin Millepied, l'ex-directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, est de retour en France avec sa compagnie, le LA Dance Project, se produit depuis hier soir au Théâtre des Champs-Élysées. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré Benjamin Millepied qui présente à Paris 3 de ses créations.
Oui, la première imaginée autour d'un travail sur le rythme, la deuxième pièce confronte danseurs sur scène et images où l'on voit des danseurs performer, et la troisième création du français prolonge sa recherche chorégraphique sur une musique de Bach. Benjamin Millepied Boyer veut bousculer sa manière classiciste de penser la danse, notamment en libérant les individualités des artistes de sa compagnie.
J'ai pas mal réfléchi de la place de l'interprète dans mon travail, de cette idée qu'on rentre dans le chorégraphe rentre dans un studio, que le danseur est un outil, même s'il va inspirer la chorégraphie, qu'il y a un échange. J'ai été intéressé par en fait le désir de liberté, d'indépendance qu'éprouve une personne quand elle veut faire de la danse. C'est-à-dire que moi, je pense que ça a toujours été ça, mon rapport à la danse. C'était un besoin de liberté, d'indépendance, d'occuper un espace. J'avais envie d'aller plus loin avec mes danseurs. Donc, au contraire, on a fait beaucoup de séances d'improvisation. Et ensuite, j'ai développé, on va dire, une structure dans laquelle ils pouvaient créer eux-mêmes, les laisser s'exprimer à travers leur style, dans une méthode qui est la mienne, de les pousser dans leur création, de les pousser dans leur expression. Voilà. On comprenne tout de suite, quand ils rentrent en scène, pourquoi ils sont différents des uns des autres.
Et c'est l'une des forces du LA Dance Project, faire bouger les lignes. L'été dernier à Arles, Benjamin Millepied avait ouvert au public les répétitions de sa troupe, une compagnie 100% privée qui se produit également dans des endroits atypiques comme dans une gare il y a quelques mois et désormais dans un lieu qu'elle a investi à l'est de Los Angeles.
Je suis très intéressé à l'idée que ce lieu devienne un lieu d'un peu d'avant-garde musicale, de danse, de théâtre et même de cinéma. Pourquoi pas faire des rétrospectives, etc. Créer un public. Ça, c'est vraiment une expérience, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, à Los Angeles, on est un petit peu des pionniers, parce qu'il faut savoir que dans la danse, on est la première compagnie dans l'histoire de la ville à avoir notre propre salle de spectacle. Bon, on a une petite salle, mais tous les spectacles sont remplis. Faut se dire qu'il n'y a pas une compagnie aux États-Unis nouvelle qui a marché depuis les années 50. C'est un grand pari, mais c'est le pari d'une vie pour moi. Voilà, ça marche actuellement et on avance, on grandit. On a des tels soucis économiques par rapport à l'art qu'au contraire, je veux faire aucun compromis. Et présenter des choses auxquelles je crois. Parce qu'on a de plus en plus besoin de voir des choses profondes, des œuvres d'art qui questionnent, qui ont un véritable lien avec les temps dans lesquels on vit. Et voilà, qui pour moi, c'est idéal.
Bon, alors, près de 3 ans après sa démission fracassante à l'Opéra de Paris, il a l'air de bonne humeur, voire apaisé, notre Benjamin.
Il peut désormais se concentrer sur la création, mais Benjamin Millepied ne regrette ni d'avoir accepté le poste, ni d'avoir claqué la porte.
C'était une aventure qui m'a énormément appris, qui m'a permis aussi justement de faire un trait sur l'idée d'avoir ce genre de poste, mais c'était pas pour moi.
Aucun regret ?
Non, aucun regret. Non, vraiment, une très belle aventure qui m'a énormément appris. Je suis heureux de toutes les commandes et toutes les questions et toutes les choses que j'ai pu aborder et révéler pendant les 2 ans de direction.
Le chorégraphe est toutefois assez critique quand on l'interroge sur l'avenir des compagnies comme le Ballet Parisien ou le New York City Ballet.
Quand on a un modèle qui a été créé dans les années 50, où on a créé des temples pour les arts vivants, pour la scène de 2000-2500 places, et que les familles, par exemple, à New York, qui amenaient leurs enfants il y a 20-30 ans, qui aujourd'hui n'existent plus. On est dans un moment où il faut continuer à remplir ces salles et à faire des choses plus commerciales et moins intéressantes. Et tout le rapport par rapport à la musique et aux commandes, le rapprochement des compositeurs à la danse, etc., on s'en est tellement éloigné parce que ces théâtres ont un souci simplement économique. Et c'est normal, je pense que si moi, à la tête d'une compagnie comme ça, ce serait pareil, je serais obligé de faire des compromis. J'aime ne pas en faire.
Alors, outre sa compagnie, et c'est passionnant, Benjamin Millepied va également réaliser son premier film.
Oui, suite logique pour ce passionné de photos qui avait déjà des courts-métrages à son actif. Millepied va tourner à la fin de l'année à Los Angeles et à la frontière mexicaine une version inédite de Carmen.
Une histoire totalement adaptée, contemporaine en Amérique, d'une Romanie mexicaine qui va traverser la frontière et rencontrer un garde de la frontière qui revient de guerre. Et voilà. Donc c'est l'idée, c'est vraiment d'amener quelque chose de nouveau à un genre qui en a grand besoin, où on a des conventions qui ont été imaginé par des danseurs réalisateurs ou des chorégraphes réalisateurs qui sont bien loin, comme Bob Fosse, Robbins, Fred Astaire ou Gene Kelly. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut aujourd'hui amener un certain réalisme. Comment est-ce qu'on passe d'une narration forte à la danse et à la musique au cinéma? Et c'est ça, en tout cas, l'ambition du film. Je pense qu'il y a un véritable enjeu qui est passionnant.
Est-ce qu'on peut dire que ce sera une comédie musicale?
J'aime pas appeler ça comédie musicale en même temps. Je suis pas un grand fan des comédies musicales d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi une tragédie romantique, qui est Carmen. On est dans 2 personnages qui cherchent une liberté, la liberté pour différentes raisons, dans un monde qui va faire que leur amour est impossible. Mais non, c'est un film où il y a de la musique et de la danse.
Votre épouse, Nathalie Portman, a réalisé son premier film récemment. Elle vous a donné quelques conseils, j'imagine?
Bien évidemment, elle a lu mon scénario et elle me dit ce qu'elle en pense et elle a d'excellentes idées. Et elle me donne d'excellents conseils. La vérité, c'est qu'elle est aussi en train de lire des films qu'elle va jouer, pense aux films qu'elle va réaliser. Il y a aussi une question de temps, voilà, et nos enfants à qui on voilà, prête beaucoup d'attention.
Et c'est Nicolas Britel, compositeur de musique de films, notamment Moonlight, il y a quelques années, qui signera la partition originale de ce Carmen.
Et c'est le compositeur de Si Beale Street pouvait parler, dont on a parlé tout à l'heure.
Qui sort aujourd'hui. Avant de quitter Benjamin Millepied, je lui ai demandé s'il dansait encore aujourd'hui.
Non, il y a 6 mois, je me suis un peu remis, mais finalement, j'ai usé cette envie par la carrière que j'ai eue au New York City Ballet, et la routine n'est plus quelque chose qui me passionne. De toute façon, si on veut faire les choses bien en tant que directeur, en tant que chorégraphe, en tant que réalisateur, il faut passer beaucoup de temps à lire. On ne peut pas tout faire.
Vous avez découvert la danse à l'âge à peu près qu'à votre fils aujourd'hui. Est-ce qu'il montre déjà des prédispositions, une envie, une passion pour la musique, le corps?
Il joue au foot tous les jours. S'il veut être footballeur, Millepied, ça va être un super nom. Il est très artiste, mais pas vers la danse.
Football américain ou football européen?
Non, football européen, quand même.
On espère bien.
Le LA Dance Project est sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées jusqu'à la fin de la semaine.
Le grand retour de Benjamin Millepied à Paris. Merci beaucoup, Steven Bellery. Et dans quelques instants, le grand retour de Julien Courbet sur l'antenne d'RTL. Un rendez-vous demain exceptionnel, puisque vous pourrez écouter les confidences de Geneviève Delpech, la veuve de Michel Delpech, à l'occasion de l'anniversaire de Michel Delpech, qui aurait eu 73 ans. Je ne vous raconte pas, bien entendu, la chanson. Vous connaissez tous.
Bien sûr.
Si, voilà. Quand j'étais chanteur, on va remonter le fil de ses émotions demain avec Michel Delpech.
J'avais des boutes blanches, un gros ceinturon, chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur.
Rendez-vous donc demain avec Steven Bellery et les confidences exclusives de Geneviève Delpech. Merci à toute l'équipe. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien.
Vous l'avez mis de bonne humeur en lui passant du Delpech. Fan parmi les fans de Delpech. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre de Michel Delpech? Est-ce que vous êtes capable, tiens, de fredonner les divorcés?
Oh, c'est super dur.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents. Vous ne connaissez pas la suite? Dites-moi, est-ce que vous ne seriez pas en train de nous enfumer? Vous ne savez même pas qui est Michel Delpech, et c'est faux. Alors, citez une deuxième chanson, parce que je commence à m'inquiéter, le Loir-et-Cher.
Non, le Loir-et-Cher, ça me passionne pas. Dans le Loir-et-Cher,
faites gaffe, parce que moi, je connais le répertoire par cœur. Hein.
Ah bah alors, allons-y, je vous prends au défi. Une troisième, qu'est-ce qu'on pourrait mettre?
Ce matin-là,
pour un flirt,
il s'en allait. Ça s'appelle comment, ça, ce que je viens de chanter?
Ça, c'est le chasseur.
Non.
Le chasseur, c'est n'importe quoi. Il était 5h du matin, un passeur est près d'être loin de l'altitude. Soudain, j'ai vu passer Calvi, une bouteille de Ricard à la main. Complètement beurré, il vomissait dans les fourrés. Des gonzesses partout, dans ses prairies, et faisait des striptease. Je la connais très bien, cette chanson, alors ne m'apprenez pas qu'est Delpech, les chasseurs.
Je viens de vous voir danser, c'est joli, vous gigotez bien.
Oui, pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi.
Cette petite danse que vous avez vue, qui n'a duré quoi que 7-8 secondes, eh bien, ça va me coûter au moins 3-4 cachets de Voltarenne. Parce qu'à mon âge, on ne se remet pas de ce genre de déhanchement.
Je vais vous donner une très bonne adresse.
Merci beaucoup.
Bonne émission, journée. On vous écoute.
Allez, c'est parti.